Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le pape François va désormais reposer à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Ses obsèques se sont déroulées cet avant-midi. Plus de 130 délégations du monde entier, dont une cinquantaine de chefs d'État, ont pris part à cette cérémonie. Parmi les grands absents, le président russe et le premier ministre israélien. Sud Kivu, calme apparent ce samedi dans la ville d'Uvira et entre Katogota et Rutebe. C'est après des tirs nourris hier dans ces agglomérations. Des bombes larguées sur Uvira lors des hostilités entre l'armée et les Wazalendo hier ont causé 3 blessés légers, rapportent des sources sur place. Et puis, l'invité de ce midi, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani. Il est parmi les gens qui ont côtoyé le pape François. L'ancien président de la CENCO nous parle du souverain pontife et de la place qu'il a accordée à la RDC dans sa gouvernance. Madame, Messieurs, bonjour. Les obsèques du pape François se sont déroulées ce samedi à Rome. Avant l'inhumation, l'un des points culminants de la cérémonie était la messe dont l'homélie a été prononcée par le cardinal doyen Giovanni Battista Re. Plus de 130 délégations du monde entier, dont une cinquantaine de chefs d'État, y ont pris part. Parmi les grands absents, il y a le président russe Vladimir Poutine, qui certainement ne veut pas prendre des risques, lui qui est recherché par la Cour pénale internationale. Très critiqué par le pape François, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou non plus n'a pas fait le déplacement de Rome. Alain Rungmushinj, reportage.
8 heures, les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent le glas pour les funérailles du pape François. À quelques minutes du début de la messe, environ 140 000 personnes sont présentes. 8h07, le cercueil du pape François quitte la basilique Saint-Pierre, porté par 14 personnes, sous les applaudissements de la foule pour rejoindre la place Saint-Pierre, alors que la cérémonie d'hommage est sur le point de démarrer. 8h16, les cardinaux sortent un à un de la basilique Saint-Pierre. Alors que le cercueil du pape François a été posé sur le sol de la place Saint-Pierre, les cardinaux sortent un à un de la basilique pour prendre place dans l'assistance en attendant que Giovanni Battista Re, doyen du collège des cardinaux, ne prenne la parole. C'est lui qui préside la messe. Elle dure environ 1h30 avec la participation de 224 cardinaux et 750 évêques et prêtres. Le cercueil de bois et de zinc, scellé vendredi soir, a par la suite été déposé sur le parvis de la basilique devant l'autel. À 8h40, le cardinal doyen Giovanni Battista Re prononce l'homélie. Le pape François a touché les esprits et les cœurs, dit-il. Par notre prière, nous voulons confier l'âme du bien-aimé pontife à Dieu. Le cardinal retrace le parcours du défunt pape tout en évoquant sa personnalité. Il a toujours cherché à illuminer les problèmes de notre temps à la lumière des évangiles.
Alain Rungmushinj sur Radio Kapi. Après une procession dans les rues de Rome, le pape François va être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Retournons au pays, précisément au sud Kivu. Un calme relatif s'observe ce samedi dans la ville d'Uvira et entre Katogota et Rutebe vers Lubarika. C'est après des tirs nourris hier dans ces agglomérations, des bombes larguées dans la ville d'Uvira lors des hostilités entre les FARDC et les Wazalendo hier ont occasionné 3 blessés légers parmi la population civile. S'agissant des affrontements de Katogota entre les FARDC et les rebelles AFC M23, nos sources n'ont pas eu la facilité d'accéder au bilan. Détail avec Grâce Amzati.
La partie sud de la province du Sud Kivu était marquée hier par 2 fronts. D'abord celui d'Uvira qui a opposé les Wazalendo au FARDC. À la base, la contestation par les Wazalendo du mouvement de redéploiement des FARDC vers la localité stratégique de Katongo, en amont de la ville d'Uvira dans les hauts plateaux de Fizi. Des tirs croisés entre les deux parties, pourtant associés pour la défense de la patrie, ont entraîné 3 blessés dont une femme dans les quartiers Kilibula, Kabindula et Nyamwanda. Un autre front était ouvert dans la partie nord de la ville d'Uvira, précisément dans la plaine de la Ruzizi, entre Katogota et Rutebe. Les rebelles du M23 ont tenté de déborder les positions FARDC et passer par Rubarika pour aller renforcer leurs troupes engagées dans un autre front à Kaziba Centre, dans les territoires de Walungu. Ce samedi, la situation est relativement calme, signalent nos sources permanentes dans la région.
À peine après la signature par la RDC et le Rwanda d'une déclaration de principe pour la paix sur le terrain au Nord Kivu, c'est la logique conflictuelle qui prévaut. Des combats se sont poursuivis jusque tard hier dans le territoire de Masisi. Ils ont opposé toute la journée de vendredi les rebelles du M23 aux combattants de l'APCLS dans plusieurs axes du secteur Osoba-Nyungu. D'autres accrochages ont été signalés aussi à Bukombo, territoire de Rutshuru. Des sources concordantes dans la région signalent le contrôle de quelques villages par l'APCLS, le point avec Stanislas Diomi.
Le théâtre de combat se situe à proximité des villages de Kaposo, Lushali et Burubi. Ces zones sont contrôlées par l'APCLS qui consolide leur position à l'issue des affrontements d'hier, rapportent plusieurs sources à Nyabundu. Pour autant, les villages de Kinyumba, distant de 5 km de Nyabundu, restent toujours sous occupation rebelle. Certaines sources notent le retrait de rebelles du M23 de leur position avancée de Kibati dans le Walikale tard la nuit. Ils se concentrent désormais, ajoute la même source, à Kachebere, 15 km de Kibati. À l'heure qu'il est, Kibati s'est vidé de sa population. Aucune force ne contrôle ce village situé à la lisière entre territoires de Walikale et Masisi. Par ailleurs, les habitants de Nyabundu Centre qui ont abandonné leur maison ont passé leur première nuit, les uns à l'hôpital de Nyabundu, d'autres à la base de MSF et d'autres encore à l'épée et institut Kisonzwa. Sur un autre plan, il n'y a aucun engouement ce samedi, jour du grand marché de Nyabundu. Les activités commerciales se sont délocalisées dans l'enceinte de l'église 8e CEPAC en raison de la psychose du moment. Les commerçants qui viennent d'ailleurs et qui alimentent ce marché n'ont pas pu faire leur déplacement dans cette atmosphère de violence et de terreur.
Entre-temps, du côté du Haut-Katanga, Justicia Asbel et l'Institut de recherche en droits humains dénoncent la présence des militaires à la ferme Futuka de l'opposant Moïse Katumbi, située dans le territoire de Kipushi. Pour ces deux ONG de défense des droits de l'homme, cette situation n'est pas de nature à favoriser la réconciliation et la cohésion nationale tant recherchées. Elles l'ont fait savoir dans un communiqué de presse publié vendredi. D'autres détails avec Timothée Mbuya, président de Justicia Asbel. Il est joint par Jean Gandou.
Justice et ASPL ainsi que l'IRDH ont effectivement constaté que ces militaires, par leur présence déjà, ils empêchent aux communautés de s'approvisionner en eau potable. Mais ceux qui sont stationnés du côté de l'entrée principale, ils ne disent rien à personne et jusque-là, ils ne font aucun dégât. Cet acte intervient au moment où le gouvernement a pris une décision portant sur la saisie des biens de M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Justicia ainsi que l'IRDH invite le gouvernement à développer des attitudes qui encouragent la réconciliation ainsi que la cohésion nationale, notamment en se conformant à ces pré-accords qui a été signé à Doha avec le mouvement rebelle M23. Justicia et l'IRDH demande également à ce que, dans le cadre de la décrispation politique, les acteurs politiques qui sont aujourd'hui poussés à l'exil puissent avoir l'occasion de rentrer et ceux qui sont privés de leur passeport puissent en obtenir. Également, la décrispation passe justement par la libération des prisonniers politiques ainsi que la protection et la restitution de biens qui ont été confisqués à des acteurs politiques.
Direction le Congo central, interdiction de circuler sur les artères de Matadi entre 23h et 4h30. La décision est prise à l'issue d'une réunion du comité local de sécurité urbain rassemblant les autorités locales et les forces de l'ordre. Dans une déclaration à Radio Kapi, le maire de Matadi indique que cette mesure vise à limiter les activités criminelles associées à l'utilisation des motos fréquemment utilisées par les malfaiteurs pour commettre des vols à main armée et autres actes odieux. On écoute Dominique Nkodiambete dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambou.
Nous avons conclu que les bandits qui opèrent la nuit pour se mouvoir ou pour se déplacer, ils utilisent la moto. Alors pour réduire ou pour casser l'élan de ces bandits qui opèrent la nuit, les membres du comité local de sécurité au niveau urbain ont estimé que nous devons commencer par la moto que les bandits utilisent pour opérer la nuit. Alors, la décision est tombée. À partir de 23h, il faut interdire la circulation des motos. De 23h jusqu'à 4h30. À ce moment-là, nous pouvons être sûrs que les bandits auront du mal à se déplacer pour opérer de gauche et à droite. Donc désormais, de 23h à 4h30, les motos ne peuvent plus circuler. Et tous les services de sécurité sont chargés de l'exécution sans faille de cette décision pour sécuriser notre ville.
Dans l'actualité aussi, la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI renforcent leur collaboration en marge des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le ministre des Finances, Doudou Fouambalikoundé, a conduit une délégation de haut niveau à Washington pour des discussions cruciales avec le Fonds monétaire international au centre des échanges, la prochaine revue du programme FEC et l'engagement du gouvernement à maintenir le cap des réformes malgré les défis sécuritaires. Explication Michel Kifindangoy.
Ces discussions préparent le terrain pour la première évaluation du programme économique et financier attendu à Kinshasa du 30 avril au 13 mai prochain. L'état d'avancement des objectifs fixés, le suivi des dépenses publiques, la coordination des données économiques et la préparation du budget rectificatif pour 2025 ont été au cœur des échanges. L'impact de la situation sécuritaire dans l'est du pays et les mesures envisagées pour y faire face ont également été abordés. La délégation congolaise a insisté sur la ferme volonté du gouvernement de respecter ses engagements. Des réformes importantes sont en cours, notamment en ce qui concerne la gestion des dépenses publiques et l'accélération des investissements dans des secteurs clés comme les routes agricoles, la santé, l'éducation et l'énergie. Le directeur du département Afrique du FMI a salué les performances économiques de la RDC. Il souligne cependant l'importance de maintenir la transparence et la collaboration. Pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a rappelé que le président de la République suit de près ce programme qui vise à stabiliser l'économie et à améliorer concrètement la vie des Congolais.
Autre nouvelle, les constructions anarchiques dans la baie de Ngaliema ici à Kinshasa et dans d'autres zones non constructibles préoccupent le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi l'a évoqué hier vendredi dans le deuxième point de sa communication au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres. Parmi les mesures fortes pour protéger les populations contre les inondations, le président de la République propose notamment la démolition des constructions anarchiques. On écoute un extrait du compte-rendu lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Extrait choisi par Alain Rongmochinge.
Face à cette situation, il a exprimé sa vive préoccupation et il a insisté sur la nécessité d'agir avec célérité, fermeté, dans le strict respect des lois de la République, car la protection de population et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables. Ainsi, dans le strict respect des procédures légales existantes, il est indispensable que certaines mesures soient immédiatement mises en œuvre. Il s'agit notamment de la démolition de constructions érigées en violation de normes d'urbanisme, en particulier celles qui entravent les canaux d'évacuation des eaux, le renforcement de mécanismes de contrôle et de surveillance dans les zones à risque, la mobilisation de la cellule de crise institutionnelle chargée de coordonner l'ensemble des actions de terrain, la sensibilisation et l'accompagnement de populations concernées afin d'assurer une transition respectueuse de droits humains et des règles établies.
Rendons-nous à Beni, au Nord Kivu. La MONUSCO a remis hier un premier lot de matériel à l'Office des routes en vue de la réhabilitation du pont Semuliki. Ce pont relie la cité frontalière de Kasindi-Lubiria aux villes de Beni et Butembo. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de la société civile et de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Depuis deux semaines, le pont Semuliki, d'une importance capitale pour les échanges commerciaux, présente des fissures inquiétantes. Il menace de s'effondrer, ce qui pourrait entraîner l'interruption du trafic sur l'axe Beni-Kasindi, principale voie d'import-export du Grand Nord. Reportage Marc Marofimbo.
Au total, 12 conteneurs de matériel sont attendus pour cette opération. Le permis a été officiellement remis ce vendredi. Ombeni Kambale Nana de la MONUSCO, en charge de la supervision technique du projet, donne des explications.
Les conteneurs qui vont arriver vont contenir un pot complet Acro 700 XS d'une portée de 35 mètres avec une capacité de plus de 25 tonnes. La MONUSCO a choisi de donner tous les pots au complet.
Une intervention saluée par l'Office des routes. Pour Dieudonné Okundji, chef des brigades à Beni, cette action rapide de la MONUSCO répond aux cris de détresse de la population, inquiète d'une éventuelle coupure du trafic sur cet axe stratégique.
Nous sommes tellement joyeux de voir que la MONUSCO nous a aidé à trouver la solution par rapport au dossier que nous avons comme difficulté.
De son côté, Cléophas Paluku Kaongia, vice-président territorial de la FEC Beni, exprime sa gratitude envers le gouvernement provincial et la MONUSCO pour cette initiative. Il appelle la population à ne pas céder à la spéculation sur les prix des produits des premières nécessités.
Les opérateurs économiques, nous leur disons de ne pas spéculer sur le prix, que ce soit sur le carburant et sur les produits des premières nécessités.
Depuis deux semaines, les véhicules de plus de 20 tonnes ne sont plus autorisés à traverser les ponts, ce qui complique l'approvisionnement en produits essentiels dans la région de Beni. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Namibie. La nouvelle présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah annonce qu'à partir de 2026, l'enseignement supérieur sera entièrement gratuit dans les universités publiques et les centres de formation technique du pays. Annonce faite cette semaine lors du discours sur l'état de la nation que la chef de l'État a prononcé devant le Parlement. Première femme élue présidente de la Namibie, Madame Nandi-Ndaitwah affirme que cette mesure est une réponse directe aux attentes de la jeunesse namibienne. Notez que la Namibie offre déjà un enseignement gratuit dans les écoles primaires et secondaires publiques.
L'invité.
Après 12 ans de pontificat, le pape François, décédé lundi 21 avril dernier, est mis en terre ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Ce, contrairement à ses prédécesseurs, inhumés tous dans la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife était un grand pasteur humble et dont la proximité n'est pas à démontrer. Parmi les gens qui l'ont côtoyé figurent Monseigneur Marcel Outembitapa, l'archevêque métropolitain de Kisangani, l'ancien président de la SENCO de 2016 à 2024, et notre invité. Il nous parle de cet homme et de la place qu'il a accordée à la RDC dans sa gouvernance et ainsi que ses plaidoyers. Monseigneur Marcel Outembi s'entretient avec Jacques Moukongolé.
Monseigneur Marcel Outembi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Monseigneur, vous avez été président de la conférence épiscopale nationale du Congo de 2016 à 2024. En tant que tel, vous avez travaillé avec le pape François. Que retenez-vous de lui?
Oui, effectivement, durant le pontificat du pape François, qui a duré 12 ans, et je dois dire que mes mandats comme président de la SENCO pendant 8 ans, soit de juin 2016 à juin 2024. Alors, je retiens beaucoup du pontificat du pape François. Un grand pasteur, un grand homme de Dieu, mais humble, simple, proche des gens. Et à travers ses visites apostoliques, il a manifesté sa proximité, son amour de pasteur et de brebis. Et comme il nous invitait toujours, nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, à sentir l'odeur de la brebis, et lui-même, il a prêché par l'exemple.
C'est peut-être ça le profil qu'il voulait d'un évêque.
Et je pense que oui, un pasteur doit être un évêque, tout comme un prêtre, surtout un évêque doit être un pasteur. Un pasteur proche du peuple dont le soin pastoral lui est confié. Ça, c'est important. Et ces visites apostoliques nous invitent aussi à valoriser, à donner de l'importance aux visites pastorales dans nos diocèses respectifs.
Monseigneur, on peut dire que son passage en RDC, c'est un des moments forts que vous retenez de lui.
C'est un moment très fort que je retiens, qui est intervenu pratiquement dans la fin de mon mandat comme président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et c'est quelque chose que je retiens, que je ne vais jamais oublier. Et ça s'inscrit comme un point d'orgue qui s'actionne, qui récompense aussi mon engagement au service de l'Église Famille de Dieu et qui est en aire des Congo.
Et Monseigneur, qu'est-ce qui faisait la particularité du pape François?
Et son franc-parler, son humilité, il n'hésitait pas à chaque fois qu'il tenait, par exemple, de grandes rencontres, comme l'Angelus, le dimanche où il devait prier avec les pèlerins venus nombreux sur la place Saint-Pierre. Il ne cessait de leur dire « N'oubliez pas de prier pour moi ». Donc, un homme qui sent le besoin, qui exprime ses besoins aux chrétiens ordinaires, aux baptisés ordinaires. Donc, un grand sens de l'humilité, un grand sens de simplicité et de proximité.
Et quelle était la place de la RDC dans la gouvernance du pape François et dans ses plaidoyers?
Le pape François a beaucoup aimé la RDC. Et pour preuve, sur le plan liturgique, il a célébré plus d'une fois la messe dans le rite communément appelé les rites congolais, par le passé les rites zaïrois, sous le missel adapté pour les diocèses du Zaïre. Ça, c'est une première, c'est quelque chose de spécial. Le pape François a célébré une messe dans ces rites, dans la basilique Saint-Pierre. C'est une première. Il aimait aussi et il admirait la liturgie célébrée à la congolaise. Une messe vivante, avec la participation de tout le monde, par les chants, par les gestes, par la danse, et il aimait ça beaucoup. Il a même présenté l'acculturation congolaise comme modèle qui peut inspirer d'autres continents. Et à chaque fois qu'il y avait des cas, par exemple, des morts, des massacres au Congo, suite à l'insécurité endémique que nous connaissons depuis 30 ans, durant son pontificat, le pape ne cessait de nous adresser un mot de réconfort, un mot de compassion. Il avait vraiment un cœur pour le Congo.
Monseigneur, pour terminer, quelle leçon le monde peut tirer de la vie du pape François?
C'est un pape qui aime l'Église, un pape qui aime l'humanité entière, et pour preuve, il entretenait des relations humaines, amical, pastoral, facile avec toutes les catégories de personnes. Mais c'est un pape qui aime aussi notre planète Terre. Il nous invite, face à la crise climatique que nous connaissons aujourd'hui, il invite l'humanité à protéger notre maison commune, la planète Terre.
Monseigneur Marcel Outembi, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
L'archevêque métropolitain de Kisangani répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.